Bien des gens nous trouveront aussi insensibles que fous de nous être remis à penser au tunnel nord et à l'abîme qui s'étendait au-delà, si peu de temps après notre macabre découverte. Et je précise que nous n'aurions pas immédiatement entretenu de telles considérations sans un événement bien particulier qui nous a surpris, entraînant toute une série de nouvelles spéculations. Nous avions remis la bâche sur le malheureux Jedney et restions là, muets de stupéfaction, lorsque nous avons fini par prendre conscience d'un bruit. Le premier son que nous ayons entendu depuis que nous avions quitté le monde extérieur, où le gémissement du vent nous parvenait étouffé depuis d'incroyables hauteurs. Aussi banal et familier qu'il soit, sa présence dans ce monde de mort était plus inattendu et inquiétant que n'importe quel son grotesque ou fabuleux, car il venait bouleverser à nouveau toutes nos notions d'harmonie cosmique. S'il s'était agi de ces bizarres notes musicales sur une gamme étendue que le rapport de dissection de Lake nous avait fait associer à ces êtres et que, dans nos esprits enfiévrés, nous avions cru reconnaître dans chaque hurlement du vent depuis notre découverte des horreurs du camp, cela aurait été horriblement approprié dans cette région morte depuis des millénaires. Une voix venue du fond des siècles est à sa place dans un cimetière de ces temps incroyablement reculés. Mais ce bruit fracassait toutes nos conceptions les mieux ancrées, nous qui admettions tacitement que ce désert antarctique était aussi désolé et totalement dépourvu de tout vestige d'une vie normale que le disque stérile de la Lune. Mais ce que nous avions entendu n'était pas le sifflement fabuleux d'une monstruosité blasphématoire datant de la jeunesse de la Terre, dont le soleil polaire, en se posant sur son corps d'une résistance surnaturelle, aurait extirpé une monstrueuse réponse. Non ! C'était quelque chose de si ironiquement normal et familier après nos journées de voyage en mer au large de la Terre de Victoria et notre campement au détroit de McMurdo, que l'entendre ici, où il n'avait rien à faire, nous donnait le frisson. En deux mots, c'était l'aboiement rauque d'un pingouin. Ce bruit étouffé flottait vers nous depuis quelques recoins subglaciaires situés à l'opposé du couloir d'où nous venions, c'est-à-dire manifestement dans la direction de cet autre tunnel menant au gouffre. La présence d'un oiseau aquatique vivant dans un monde qui, à sa surface, n'était que mort et désolation séculaire, ne pouvait signifier qu'une seule chose, si bien que notre première idée a été d'en vérifier la réalité objective. De fait, nous l'avons à nouveau entendu, et à plusieurs reprises, il nous a semblé provenir de plus d'un animal. En cherchant sa source, nous avons franchi une arche dont on avait déblayé l'essentiel des débris et avons continué notre chemin, munis d'une nouvelle provision de papier, pris non sans répugnance sur l'un des traîneaux, abandonnant derrière nous la lumière du jour. Comme le sol glacé cédait la place à une couche de gravats, nous avons discerné d'étranges traces, comme si on avait traîné quelque chose dans ce couloir. À un moment donné, Danforth a remarqué des empreintes très nettes d'un type qu'il serait maintenant superflu de décrire. Le chemin indiqué par les cris des pingouins était précisément celui qui, d'après la boussole et la carte, nous mènerait à l'entrée du tunnel le plus au nord. Et nous avons eu la satisfaction de trouver un passage ouvert menant vers les niveaux souterrains. D'après cette même carte, le tunnel devait s'ouvrir au sous-sol d'une vaste structure pyramidale, remarquablement bien conservée, dont nous nous souvenions vaguement pour l'avoir vue du ciel. Tout le long de notre chemin, le faisceau de la torche éclairait l'habituelle profusion de bas-reliefs, mais nous ne nous sommes pas arrêtés pour les examiner. Soudain, une masse blanche apparut devant nous, et nous avons allumé notre seconde torche. Il est étrange de considérer à quel point cette nouvelle quête nous avait fait oublier nos peurs relatives à ce qui pouvait bien rôder tout près. Les autres, après avoir laissé leurs provisions sur la grande place circulaire, devaient avoir prévu de s'en retourner après leur voyage vers ou dans le gouffre. Et pourtant, nous avions renoncé à toute prudence à leur sujet, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette chose blanche mesurait 2 mètres de haut, et pourtant nous avons réalisé tout de suite que ce n'était pas l'un d'entre eux. Ils étaient plus grands et plus sombres, et selon les sculptures, leurs mouvements terrestres étaient rapides et assurés, malgré le handicap de leurs tentacules d'origine marine. Mais dire que cette chose blanche ne nous a pas emplis d'épouvante serait erroné. Un instant, une frayeur primitive, presque plus puissante que celle plus raisonnée concernant les créatures, nous a paralysés sur place. Puis la tension est retombée, quand la forme blanche s'est engouffrée dans une arche latérale sur la gauche pour rejoindre deux de ses semblables attirés par ses cris. Car ce n'était qu'un pingouin, quoique d'une espèce énorme et inconnue, plus grande que le manchot empereur et monstrueuse à la fois, atteinte d'albinisme et quasi dépourvue d'yeux. Nous avons suivi cette chose dans l'arche et tourné nos deux torches vers le trio indifférent et avons alors constaté qu'il s'agissait bien d'albinos aveugles appartenant à la même espèce inconnue et gigantesque. Leur taille m'a rappelé certains des pingouins préhistoriques représentés dans les sculptures des anciens, et nous avons vite conclu qu'il devait s'agir de leurs descendants, ayant sans doute survécu en se réfugiant dans les régions souterraines plus chaudes, dont les ténèbres perpétuelles avaient détruit leur pigmentation et atrophié leurs yeux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que de minces fentes. Leur refuge était indubitablement le gouffre que nous cherchions, et cette preuve de la chaleur qui y régnait et de son habitabilité faisait naître en nous les visions les plus délirantes et les plus troublantes. Nous nous sommes aussi demandé ce qui avait poussé ces oiseaux à s'aventurer loin de leur domaine habituel. L'état de la grande cité morte et le silence qui y régnait montraient bien qu'elle n'avait jamais été une colonie saisonnière, tandis que l'indifférence que le trio manifestait à notre égard donnait à penser qu'il n'aurait sans doute pas eu davantage de réaction au passage des êtres. Était-il possible que ceux-ci se soient montrés agressifs ou aient tenté de compléter leur provision de viande? Nous doutions fort que l'odeur putride que les chiens détestaient tant ait pu provoquer le même genre d'antipathie chez ces pingouins dont les ancêtres semblaient vivre en bonne entente avec les anciens, une relation amicale qui avait dû se poursuivre au sein de l'abîme tant que des anciens y avaient demeuré. Dans un sursaut d'esprit scientifique, nous avons regretté de ne pas pouvoir photographier ces oiseaux anormaux, puis les avons laissés à leurs cris pour continuer notre chemin vers le gouffre dont l'accessibilité était désormais avérée et dont les traces de passage des pingouins nous montraient la direction. Peu après, une descente escarpée le long d'un couloir bas dépourvu de portes et plus étonnamment de sculptures nous a laissé croire que nous approchions enfin de l'ouverture du tunnel. Nous avons dépassé deux autres pingouins et, à en juger au bruit, il y en avait d'autres encore juste devant nous. Puis, le couloir s'est terminé sur un prodigieux espace dégagé qui nous a arraché un cri de surprise. Un hémisphère parfait, de plus d'une trentaine de mètres de diamètre et de 15 mètres de haut, avec des arches basses s'ouvrant tout autour de sa circonférence. Sauf une, qui, brisant la symétrie de la voûte, avec sa hauteur de 5 mètres, s'ouvrait sur des ténèbres. C'était l'entrée du grand gouffre. Sous cette vaste coupole ornée de gravures impressionnantes, quoique dégénérées, imitant encore une fois la voûte céleste d'une époque archaïque, se pavanaient quelques pingouins albinos, étrangers en ce lieu, mais aveugles et indifférents. L'ouverture du tunnel ténébreux, dont les montants et linteaux étaient recouverts de gravures grotesques, bâillait sur une pente raide qui semblait s'étirer à l'infini. Nous avons cru sentir un courant d'air chaud s'échapper de cette ouverture cryptique, et peut-être même un soupçon de vapeur, et nous nous sommes demandé quelles entités vivantes autres que les pingouins pouvaient receler ce gouffre sans fond et au-delà le réseau de galeries souterraines qui sillonnent ces monstrueuses montagnes.